Le samedi 4 mai aura lieu à Buenos Aires un marathon de lecture appelé Tinta Frescas, encre fraîche, de 10 œuvres françaises et 10 œuvres argentines, avec la participation de plus de 70 actrices et acteurs. La réunion aura lieu au Théâtre Cervantes et à l'Alliance Française de 13 à 21h avec entrée libre. Tinta Fresca veut encourager la traduction, la publication et la mise en scène de jeunes dramaturges français en Amérique latine et projette une action équivalente pour les jeunes dramaturges d'Amérique latine en France. L'objectif du programme est de donner un nouvel élan à la création théâtrale dans leurs pays respectifs en augmentant la visibilité des différentes productions artistiques. La première partie du projet a consisté à traduire 20 textes de 10 dramaturges français et françaises sélectionnés par Michel Didin, metteur en scène au Théâtre de la Manufacture de Nancy-Lorraine. À savoir Lucie Depot, Nathalie Fillon, Magali Mougel, Pauline Peyrade, Alexandra Badea, Aurore Jacob, Lancelot Hamelin, Baptiste Amand, Guillaume Poix et Gérard Watkins. Il y a aussi 10 pièces de dramaturges argentins et argentines. Muma Casares, Nacho Ciatti, Laura Córdoba, Fabián Díaz, Juliana Kiers, Gustavo Kreiman, Diego Manso, Eugenia Pérez Tomás, Laura Zdar et Alfredo Staffolani. Pour représenter l'organisateur Michel Didin, nous avons récupéré une interview dans laquelle il parle de la production de Voyage en Italie d'après les essais de Montaigne.
Il a semblé que c'était important de montrer au public les phases les plus déterminantes du carnet de voyage, mais aussi celles qui permettaient d'avoir le meilleur réverbération de sens par rapport aux essais. Donc c'est à la fois un voyage technique, physique, avec des bandits de grand chemin, des gens qui volent sur le prix des chevaux, avec des hébergements plus ou moins intéressants, des endroits magnifiques et d'autres endroits où on se satisfait, puisqu'on arrive tard, satisfait de dormir dans la paille. Donc c'est complètement disparate au niveau des environnements qu'il voit. Mais pour Montaigne, peu lui chaud, parce que pour lui, seuls ses ennuis de santé lui causent un trouble. Car il aime la pluie, il aime le vent, il aime le froid, il aime le chaud, il aime la vie, il aime tout. Le matin, il se réveille de très bonne humeur quand il sait qu'il a une ville nouvelle à découvrir. Les conditions météorologiques, pour lui, c'est pas intéressant. De toute façon, en plus, c'est un homme qui peut se passer 3 ou 4 jours de manger, puisqu'il souffre donc de calculs rénaux effroyables, des douleurs d'ailleurs dont il dit que c'était la fameuse invention de l'empereur Tibère, c'était d'empêcher d'uriner ses condamnés à mort pour les faire mourir par rétention. Lui, il a des rétentions de 5-6 jours qui le mettent proche de la mort. Et dans ce moment-là, à quoi pense-t-il? Eh bien, il pense à un cheval, il pense à un chien, il pense à un livre. La mort, en général, comme ça, il la domine, mais la mort en particulier, ça le terrifie. La seconde édition des essais est enrichie de toute son expérience en Italie. Et ce voyage en Italie, c'est aussi un moyen pour lui de rencontrer beaucoup d'étrangers, de coutumes différentes, d'avoir autre chose qu'une connaissance littéraire sur Rome, sur l'Italie, sur toutes ces choses qui agitent les intellectuels de l'époque. Pardon. Pour moi, travailler sur le voyage en Italie, c'est faire un travail d'actualité, de modernité et être ensemble sur une espèce d'interrogation sur notre culture politique et économique et notre culture philosophique, savoir où en sont les origines, où en sont les fondements, et donner la chance et le plaisir à des jeunes générations d'entendre ce texte magnifique du voyage en Italie et les pensées pertinentes et profondes de Montaigne dans les essais qu'on a assemblés au voyage en Italie. Et c'est pour vous permettre, dans un endroit extrêmement singulier et ludique, d'avoir la jouissance de cette langue, d'être étonné par sa modernité, la modernité de ses propos et l'actualité de toutes les situations qu'il rencontre et qui nous donne à comprendre sur nous-mêmes quelque chose sur où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi nous, en France, on a tous ensemble décidé de faire société. Après les attentats de Charlie, quand j'ai vu tout le peuple de France dans la rue, c'était très beau de voir ce moment de République, ce moment où il y avait des gens de tous horizons, de toutes origines, de tout niveau social qui étaient en France à faire société, quoi, et à dire non, la barbarie passe pas par là. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, ça, ce sont les enfants de Montaigne. Donc l'envie de continuer à creuser cette histoire de Montaigne nous est tous venue. Et on s'est dit, il faut qu'on voit d'où est-ce qu'on vient quand même en France, c'est-à-dire Voltaire et Rousseau, Descartes également, sont venus directement de Montaigne, qui a influencé beaucoup de grands dramaturges, puisqu'on voit des copies, dans La Tempête notamment, des copies de Montaigne, des copies des Cannibales, des Essais, qui sont un fabuleux livre de chevet, à la fois pour se connaître soi-même, et comme il y a très bien dit, savoir qu'est-ce qu'on sait sur soi, qu'est-ce qu'on sait sur les autres. Ce voyage en Italie, ce n'est pas seulement un voyage d'un homme curieux, le voyage d'un homme qui veut découvrir, voir tout ce dont il a entendu parler dans des livres. Il veut aller dans une connaissance réelle. Donc il veut se mêler aux tables d'étrangers. Quand il arrive dans une ville où il y a beaucoup de Français qu'on veut le servir à la française, non. Il préfère être servi au mode local. Et son intérêt, sa vie, c'est de rencontrer l'autre. Il dit qu'un honnête homme est un homme mêlé. Donc cette idée de poursuivre le travail autour de Montaigne et d'aller plus loin, de creuser cette origine de notre philosophie contemporaine, ce qui nous a fait français, ce qui nous a fait républicains, ce qui nous a donné nos valeurs en quelque sorte, qui nous permettent de bien dissocier le religieux du politique, comprendre la nécessité de Dieu, la nécessité de la religion, mais de bien la mettre à part dans la sphère privée et non pas dans la sphère politique publique, ce qui nous fait donc rire à certaines blagues qui sont ailleurs considérées comme ostentatoires et offensives et condamné à mort. Nous, en France, on a une distance que Montaigne, le premier, nous a donnée et montrée. Quand il fait ce voyage en Italie, il arrive dans des pays où règne la concorde entre des calvinistes, des luthériens et des catholiques. Des endroits où les gens ont décidé de cohabiter pour la plus grande prospérité des cités. C'est la guerre civile en France, il y a d'innombrables Saint-Barthélemy partout. On utilise un verbiage ultra qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui qui est utilisé actuellement par Daesh pour discréditer, déshumaniser l'adversaire, obliger le pauvre, le savetier, le potier, le tailleur à assassiner son voisin, sinon le paradis lui sera désormais interdit. Et ses enfants n'iront pas non plus au paradis s'il n'a pas exterminé 50 huguenots. Donc on voit comment le bourreau ordinaire, après être allé à la messe, va assassiner son voisin. Exactement comme on peut voir actuellement, dans certains coins de la planète, des extrémistes religieux accomplir la même chose, pensant, par ce fait-là, pensant honorer Dieu, remercier Dieu et faire un bon travail par rapport à Dieu. En France, on avait cet état de guerre civile, cet état de haine qui a duré très longtemps. Il y a eu d'innombrables guerres de religion, ça s'est étalé sur presque un siècle. Montaigne est à l'endroit charnière entre Henri de Navarre et Henri IV. Il connaît personnellement Henri de Navarre, mais il n'est pas protestant. Mais il a beaucoup d'amis protestants. Donc il a fait le joint politique à un moment donné entre Catherine de Médicis, Henri III, et Henri de Navarre qui deviendra Henri IV. Et puis, il a été éliminé de la course politique parce qu'il est bien trop intelligent et surtout bien trop honnête pour cacher ce qu'il pense. Et il a, dans ce voyage en Italie, le secret espoir de peut-être devenir ambassadeur temporaire du roi de France, mais il sera réfuté et refusé par l'Église, qui d'ailleurs châtiera ses essais, lui demandera de faire de nombreuses coupes, chose qu'il ne fera pas par ailleurs. Mais c'est aussi des choses qu'on apprend sur la conduite humaine, sur la philosophie à adopter. Et donc le choix qu'on opère dans le voyage en Italie nous permet d'entendre aussi le choix qu'on a effectué dans les essais.
À l'Alliance française de Buenos Aires, samedi se présentera Dance Floor Memories de Lucie Depeau, traduit par Sol Hill avec des lectures de Mario Alarcón, Mirta Busnelli et Patricio Contreras. Voici un extrait de l'œuvre et les commentaires de Didier Laster, metteur en scène de Dance Floor Memories.
Dance Floor Memories, c'est l'histoire de Marguerite et de son grand amour, rencontrés sur la piste de danse.
Marguerite, je ne le tiendrai pas jusque-là. Je ne le tiendrai pas si la chaleur de tes cuisses n'envahit plus mes extrémités. Je ne le tiendrai pas si ta tête se défossilise de mon épaule. Je ne le tiendrai pas.
C'est à travers la danse que l'histoire d'amour se construit. Et plus ils dansent ensemble et plus ils s'aiment, c'est aussi un vrai cadeau, ça, de pouvoir à la fois jouer un texte et aussi danser un texte. Parce que l'écriture du texte est aussi très musicale.
Une musique douce-amère pour ce texte de Lucie Depeau. La partition qui se joue ici est une partition à trois.
Le mari, Pierre, est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Un garçon, je me souviens. Une fille.
La maladie, Marguerite, l'élément dramatique de la pièce, mais qui provoque aussi bien souvent le rire.
Sincèrement, à des moments assez troublants, on a quand même éclaté de rire, parce que je crois que là, on fabrique aussi dans la distance des choses, et qu'on a beaucoup éclaté de rire sur la maladie. Je suis désolé de dire ça, mais la maladie de Pierre, c'est des fois, on a extrêmement rigolé. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est amusé avec les émotions, on a été un petit peu trop loin. Oui, on a plaisanté qu'une forme d'exorcisme, en quelque sorte.
Dans le couloir, il y a 5 portes. Le temps de trouver la bonne. Trop tard.
Post-it.
Le texte est limpide, il permet au metteur en scène d'épurer au maximum son plateau. Jeux de lumière et vidéos servent à évoquer les lieux et les époques, comme sur une piste de danse infinie.
Bonjour Monsieur Laster.
Bonjour.
La pièce avait été sélectionnée par le comité de lecture.
Oui,
en,
tout à
en 2013.
Fait. C'est comme, oui, c'est comme ça qu'on a découvert, enfin, que j'ai découvert le texte. Il y a donc 4 ans, ça avait été un des coups de cœur du comité de lecture Oscaron. Et après lecture en public de la pièce, en présence d'ailleurs de Lucie Depau qui était là, l'envie m'est venue de dire mais il faut absolument que je monte cette pièce. Et donc voilà, et on a pu concrétiser le bonheur de ça. Et Lucie était ravie vraiment que sa pièce bon, pointe le jour sur les plateaux en France, quoi. Voilà.
Marguerite est partagée entre 2 hommes, Pierre, son mari, et Gary, son ancien amant, et le tout musicalement.
Le personnage danse le jeudi après-midi, toute la journée, je trouve ça assez formidable, sur des passodobles, des tangos, tout ça, et elle se retrouve dans cette ambiance-là. Et là, un homme, aussi âgé qu'elle, 70 ans, commence, entre guillemets, la draguer, lui fait des sourires, et l'invite à venir le rejoindre sur la piste de danse. Et elle va petit à petit, revenant régulièrement, un peu attirée par cet homme, redécouvrir les forces de vie. Son homme s'en va dans la vie, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui donne encore toutes les forces de vivre, et un amour va naître. Et elle nous raconte cette dualité qu'elle a entre à la fois être très présente et encore amoureuse et accompagnante avec son mari, et ce jeune amour, qui, si on peut dire, qui lui arrive, et voilà, elle nous raconte ça. C'est pour ça que ça porte le nom de Dance Floor Memories, parce que la pièce est scandée, on va dire, régulièrement par de la danse. Effectivement, on voit les acteurs danser sur la piste de danse, et ils échangent ensemble leur réalité, leurs envies, leurs déplaisirs. Enfin, il y a un partage qui est fait, mais à l'intérieur de la danse, les corps qui dansent.
L'auteur elle-même, la Lyonnaise Lucie Depau, explique comment l'idée lui est venue.
Je venais de finir un projet, donc j'étais un petit peu comme ça, là, en recherche, un peu comme une éponge perméable pour laisser le prochain sujet s'infiltrer, on va dire. Donc il y avait à l'époque une bourse Beaumarchais, en fait, qui est fiction radio, avec à ce moment-là un sujet. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de... Ça permettra une accroche. Et donc, le sujet était l'infidélité. Voilà. Bon, l'infidélité, qui est quand même un thème bien, bien commun au théâtre, hein, théâtre de boulevard surtout. J'ai eu envie de travailler ce thème, mais de le déplacer à un moment de vie différent. Et donc notamment sur des personnages qui seraient plutôt sur le troisième âge, en fait, donc sur une tranche 70-80. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ, l'idée de déplacer ce sujet un peu ailleurs, et puis aussi l'envie que ce soit pas forcément comme quelque chose de l'ordre de la faute, hein, plutôt quelque chose qui est subi, mais qui permet d'aller vers une nouvelle rencontre. Et donc, il y a eu ce personnage qui s'est créé, donc ce personnage qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment une pièce sur la mémoire, sur l'oubli. Et le fait que petit à petit, ce personnage s'absente permet à sa femme, Marguerite, de faire une rencontre et peut-être de revivre un dernier amour et peut-être un amour plus fort pour une femme, enfin en tout cas des femmes de ces générations-là qui n'avaient pas forcément toujours le choix de vie qu'on peut aujourd'hui peut-être plus s'autoriser ou défendre.
« petit rappel alors pour terminer. Samedi 4 mai, marathon de lecture de 10 œuvres françaises et 10 œuvres argentines à Buenos Aires, au Théâtre Cervantes et à l'Alliance française. Et nous nous quittons avec Sarah Auvray interprétant « Je t'aime ».
Grâce parfaite. Je t'aime à la mesure du besoin de chaque jour, à la lumière du soleil et de la chandelle. Je t'aime en liberté. Comme on fuit la louange. Je t'aime de la passion que je mettais jadis dans mes chagrins et de ma foi d'enfant. Je t'aime de l'amour que j'avais cru perdre avec mes mots sacrés. Je t'aime des rires, des larmes, des pleurs de toute ma vie. Et si Dieu veut, je t'aimerai plus encore après la mort. Je t'aime des rires, des larmes, des pleurs de toute ma vie. Et si Dieu veut, j'aimerais plus encore après la mort.